Ce matin, je voudrais vous parler d'un sujet important, il me semble. La question, c'est de connaître Dieu. Alors, comment connaître Dieu ? Et vous voyez le thème, hein, Dieu est amour. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul va se retrouver à Athènes. On trouve cet épisode dans Actes au chapitre 17. Et il se retrouve au milieu d'une assemblée de philosophes grecs, qui étaient très réputés. Et il vient de traverser cette ville remplie de temples, de statues, de divinités, des autels à des divinités. Et il va s'adresser à eux en leur disant « Je vous trouve tous extrêmement religieux ». Parce qu'en parcourant la ville, en me promenant, ben j'ai vu qu'il y avait même un autel avec une inscription qui dit « À un Dieu inconnu ». Et ce que vous révérez dans ce Dieu inconnu, eh ben moi je vous l'annonce. C'est le Dieu que je viens vous annoncer. C'est celui qui a créé le monde. C'est celui qui a créé non seulement l'univers, mais qui a créé tous ceux qui peuplent cet univers et cette terre, toutes les nations et les peuples. C'est lui qui les a placés, toutes les nations. Parce qu'à cette époque, vous savez que chaque nation, chaque peuple avait ses dieux, son dieu. Non, il y a le Dieu créateur qui a donné à chacun. Et il n'est pas servi par des mains humaines, il a besoin de rien, des hommes. Mais il donne à tous la vie, la respiration, et l'être. Et il a voulu qu'il cherche. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ah, il y a du contenu théologique là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de choses. On ne va pas tout prendre, mais Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Et pourtant, de nous-mêmes, êtres humains, nous savons qu'on en est réduit, et il le dit, à tâtonner, à chercher. Et en cherchant, on sait dans l'histoire, l'humanité a suivi des fausses pistes, hein, en se faisant ses propres dieux, ses propres divinités, à créer des dieux à son image, en fait, comme les Athéniens. Et pour connaître Dieu selon ce qu'il est vraiment, nous avons besoin qu'il se révèle à nous. Et c'est la révélation que l'apôtre Paul est venu apporter à Athènes. Qu'il nous parle de lui dans une parole qui est centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qui est venu se révéler à l'humanité. Le Dieu fait homme. Et la Bible est cette parole de Dieu qui nous dit des choses sur Dieu, sur qui il est, sur son caractère, sur sa nature, sur ses œuvres. Et c'est cette parole, c'est cette révélation qui nous permet de le connaître vraiment et de le connaître même personnellement. Et dans la parole, il y a un trait qui nous est révélé de la nature de Dieu, et bien c'est celui-là. Dieu est amour. Certains pourraient dire « Encore un message sur l'amour !» On le sait déjà, on doit aimer Dieu et son prochain comme soi-même. J'ai mis le texte d'ailleurs, tiens, si tu veux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est ici dans Luc, chapitre 10, verset 27, mais vous savez que cette parole, on la retrouve à plusieurs reprises. Donc connaître Dieu, c'est aimer Dieu et son prochain, notre prochain comme nous-mêmes. Et cette parole, elle est reprise dans le Nouveau Testament par Jésus, par les apôtres, sous différentes formes, et comme étant le cœur de l'Évangile. Alors, vous allez dire, c'est une évidence pour nous, on connaît cela. Mais, si tu passes, je pose une question, est-ce que aimer, c'est vraiment une évidence? Parce que, c'était une évidence du temps de Jésus. Dans Luc, au chapitre 10, ce texte que je viens de citer, c'est dans la bouche d'un docteur de la loi qui est en train de dialoguer avec Jésus. C'est un docteur de la loi qui vient vers Jésus et qui veut l'éprouver, qui veut tester Jésus, voir ce qu'il pense. Maître, comment est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? On va voir comment il va répondre. Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi qui l'y tue? Et la première chose qui vient à l'esprit de cet homme, ce docteur de la loi, c'est cette parole. C'est une évidence. Tout est centré sur ce commandement-là. Et ce sont ces deux commandements de l'Ancien Testament qu'on trouve dans Deutéronome au chapitre 6, versets 4 et 5, dans Lévitique 19, 18, que l'on a mis ensemble pour dire, voilà le centre, le cœur de la loi. Obéir à cela, c'est obéir à tout. C'était une évidence du temps de Jésus. C'était une évidence pour ce docteur de la loi. Mais les choses les plus évidentes et les plus simples ne sont pas nécessairement les plus faciles à mettre en œuvre. Et Jésus va montrer ici à cet homme qu'aimer son prochain, c'est concret. Et il va lui raconter une petite histoire dont Jésus avait le secret, les paraboles de Jésus. Il lui raconte l'histoire de cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui tombe au milieu de brigands, qui le dépouillent, qui le frappent et le laissent comme mort ou mourant au bord du chemin. Et Jésus continue, il dit « un sacrificateur ». Alors quand il dit le mot « sacrificateur », tous les juifs qui sont là, et ce docteur de la loi pense « ben voilà, il est sauvé cet homme ». Certainement un sacrificateur, un prêtre qui descend par hasard, va voir cet homme et le secourir. Mais dans l'histoire de Jésus, ce prêtre va passer outre. Alors on peut spéculer sur pourquoi. Alors peut-être, oui, il vient de Jérusalem, ou il vient de servir dans le temple, c'était la rotation des prêtres dans le temple, et il vient de servir dans le temple, il ne veut pas se rendre impur en touchant un cadavre. Vous voyez, voilà, ça. Peut-être, mais il passe outre. Un lévite. Alors les lévites, c'est les hommes à tout faire dans le temple, à côté des sacrificateurs. C'est ceux qui faisaient, c'est ceux qui s'activaient. Alors lui, bah oui, forcément, puisqu'il a l'habitude de faire. Quand il voit quelqu'un, là, il va aller. Il passe dans ce lieu et l'ayant vu, passa outre. Donc vous imaginez dans la tête des gens qui écoutent Jésus ce qui se passe. Parce que dans une parabole, le mécanisme de la parabole, c'est de se dire « Où est-ce que je suis dans cette parabole ? À qui dans cette parabole je peux m'identifier ?» pour en recevoir l'enseignement qui est donné. Arrive un Samaritain. Samaritain, vous vous rappelez, c'est la concurrence des Juifs, les ennemis héréditaires, les ennemis jurés. J'allais dire les Palestiniens d'aujourd'hui, mais pas tout à fait quand même. Mais ça peut-être donne une idée des tensions qui pouvaient exister entre les Samaritains et les Juifs à l'époque de Jésus, parce qu'il y avait eu, dans le passé, du sang versé entre ces deux populations. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda les plaies, en y versant de l'huile et du vin. Il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Et la question vient, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? La réponse, elle est évidente. À qui est-ce que je dois m'identifier dans cette histoire? À qui est-ce que j'ai envie de m'identifier dans cette histoire? Il est obligé de dire, c'est celui, il ne va pas dire le Samaritain, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Va et toi fais de même. L'amour, frères et sœurs, n'est pas quelque chose de théorique, mais de bien concret, de bien pratique. Même un ennemi peut aimer, même un Samaritain peut secourir un Juif. De qui es-tu le prochain ? De qui es-tu le prochain ? Et Jésus reprend ce grand commandement, le cite lui-même, mais lui, il va aller beaucoup plus loin parce qu'il va l'accomplir à la croix. Il va prendre cette position du Samaritain, finalement. Il va secourir ceux qui étaient ses ennemis à cause du péché. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie. Amen. L'amour est au cœur de la vie divine, au cœur de la vie de Dieu de toute éternité. Dieu est amour. Et la Bible, elle décrit ce caractère intrinsèque de Dieu, à la fois comme étant le Dieu saint et le Dieu qui est amour. On va parler de l'amour aujourd'hui. Dire Dieu est amour, c'est dire que Dieu de toute éternité est un être personnel, pas une force, un machin, un truc. Un truc, ça aime pas, vous voyez. De toute éternité, il est personnel et il aime. Il a un objet à son amour. Et on aime un vis-à-vis, quelqu'un, qui ne peut donc être que éternel. Vous voyez où je veux en venir? C'est donc possible que si, en Dieu lui-même, dans le Dieu éternel, il y a du relationnel en lui-même. Et c'est ce que la Bible nous enseigne entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans lequel il y a cette relation. Moi et le Père, nous sommes un, dit Jésus, Jean 10, 30. Un Dieu unique dans lequel il y a le multiple, un mystère qui défie notre tête. Mais rappelons-nous, comme ça nous a été dit ce matin par Alice, que l'Évangile ne vise pas notre tête seulement, mais elle vise nos cœurs pour nous amener à croire et à recevoir cette relation avec ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Nouveau Testament nous parle du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit du Fils, qui a, cet Esprit qui a été répandu sur tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus le décrit, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est lui qui va prendre la suite de ce que j'ai commencé de faire. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est le Saint-Esprit qui a été répandu sur l'Église, sur tous ceux qui croient. Et c'est l'œuvre qu'il accomplit aujourd'hui. Si nous croyons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible révèle cette distinction personnelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont un seul Dieu, une même essence divine, une même nature divine, mais avec une relation entre les personnes, et cette relation, c'est l'amour. L'amour. C'est ce que on a appelé par la suite les chrétiens pour essayer de formuler ce que dit la Bible, ont utilisé le mot « trinité », la tri-unité. Sans la trinité, il ne peut pas y avoir d'amour éternel. Le Père aime le Fils, Jean 3, 35, et il a remis toutes choses entre ses mains. Le Fils aime le Père. Le monde doit savoir, dit Jésus, Jean 14, 31, le monde doit savoir que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a donné. Et l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Tout le Nouveau Testament nous parle de cet amour divin, éternel. Cet amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est répandu, qui déborde pour sauver. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé. Un amour qui déborde pour venir changer nos vies. Et c'est cet amour de Dieu, cet amour dans la Trinité qui est présenté comme le modèle, comme la source et le modèle de ce que nous sommes, de ce qui fait l'Église. Si on lit Jean 15, par exemple, lisons ensemble Jean 15, verset 9. Si vous arrivez à lire de loin, Jésus dit « Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Vous voyez ce que Jésus dit ici à ses disciples, c'est que l'amour et l'obéissance, c'est-à-dire l'amour et l'acte, l'action que conduit l'amour, l'obéissance, sont étroitement liés. L'obéissance, en d'autres termes, ça démontre, ça manifeste qu'on aime réellement Dieu. Il continue au verset 11, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Moi, j'aime bien replacer les promesses de Dieu dans leur contexte. Le Père vous donnera tout ce que je veux. Dans ce contexte de l'obéissance de l'amour. Dans ces paroles de Jésus qui sont rapportées par Jean, le commandement d'aimer prend un sens particulier. Il a une source, l'amour de Jésus, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et l'amour en question, c'est donc l'amour sacrificiel, c'est celui qui a amené Jésus jusqu'à la croix, celui qui se donne pour nous. C'est la source de l'amour qui nous unit les uns aux autres. Et c'est le modèle. C'est pour ça qu'il nous appelle à l'obéissance. Et si on aime le Seigneur, c'est-à-dire si on a vraiment reçu son salut, sa grâce, son amour, alors on va garder cette parole. C'est ce que nous dit un peu plus loin, au chapitre 14, Jean. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. » Chez lui, la relation, l'intimité. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous comme je vous ai aimé. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne d'obéir, c'est lui qui répand l'amour dans nos cœurs. C'est pour ça que la vie chrétienne, elle se résume pas à une liste de lois, de règles auxquelles on s'efforce d'obéir autant qu'on peut, mais c'est d'abord une relation d'intimité, c'est d'abord un amour que l'on vit avec celui qui nous a donné son salut, son amour. Dieu a tant aimé. Dans sa première épître, on a vu dans l'évangile de Jean, mais dans la première épître de Jean, un peu plus loin dans le Nouveau Testament, Jean, il revient encore sur cette pensée de l'amour et l'obéissance. On peut lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 5, « Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité, un amour qui grandit. » Observez sa parole. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. On parle bien d'une relation ici. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Le modèle de la vie chrétienne. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul modèle. J'ai l'impression parfois que dans l'Église ou dans nos têtes, on se donne d'autres petits modèles. Mais il n'y a qu'un modèle. C'est Jésus lui-même, de celui qui a donné sa vie par amour pour nous. Jean, il va continuer, il va prendre des opposés, des extrêmes, il va prendre lumière, ténèbres, haine, amour dans son épître pour souligner encore l'importance de l'amour dans la vie chrétienne. Quand vous voulez souligner quelque chose, vous mettez un contraste, vous voyez, c'est ce qu'il fait dans ce texte. Au verset 9, celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore présentement dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien ne risque de causer sa chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Au chapitre 3, voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et il s'exclame, l'apôtre. Voyez combien le Père nous a aimés. C'est ainsi que c'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez, il fait des opposés très forts. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Plus loin encore, chapitre 5. Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que obéir à ces commandements vient de l'amour que nous portons à notre Dieu. Amen. On voit sous la plume de l'apôtre Jean que l'amour est au cœur de l'Évangile. On ne peut pas comprendre l'Évangile de Jésus-Christ. On ne peut pas comprendre la foi chrétienne si on ne comprend pas cette réalité que l'amour est au cœur de l'Évangile, au cœur de la vie de l'Église. On ne peut pas bien vivre l'Église si on ne comprend pas cette réalité, que c'est le fondement de l'Église, c'est le fondement de la vie chrétienne, le fondement de l'obéissance. On suit Dieu, on conforme notre vie à qui il est, lui, par amour. C'est le fondement même, et là, c'est pour les pentecôtistes ça, c'est le fondement même de tout réveil spirituel, les dons de l'esprit, les manifestations spirituelles. Vous savez, 1 Corinthiens 13, c'est juste après 1 Corinthiens 12. Si je n'ai pas l'amour, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, parler en langue, allez, on parle en langue. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, ça fait du bruit, mais bon. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Cet amour les uns pour les autres, ce qui fait l'Église, c'est la preuve manifeste de l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. En d'autres termes, je vais utiliser le mot que la Bible utilise aussi, c'est la preuve de la sanctification. La manifestation de ce qui est juste aux yeux de Dieu, sa justice. L'amour ne fait pas de mal au prochain, dit l'apôtre Paul. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, de l'obéissance. Romains 13, 10. Alors, je reviens à la question que je posais tout à l'heure, ou la réflexion, est-ce que vraiment on en parle assez dans nos rassemblements, dans nos cultes de l'amour? Je confesse, hein, en tant que prédicateur, pas assez. Est-ce qu'on prêche assez sur l'amour? Parce que la prédication de l'Évangile, vous le savez, et je le répète, ne vise pas nos têtes. Ça passe par la tête, hein. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier, sonder l'écriture et chercher les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre le grec pour ceux qui veulent, ou apprendre l'hébreu pour ceux qui veulent, pour aller plus loin encore. Non, non, tout ça c'est bien. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Vous voyez ? Pas que ça s'arrête là. Ce que vise la prédication de l'Évangile, c'est nos cœurs. Nos cœurs. Alors, ne croyons pas que nous savons les choses parce que nous les avons apprises avec nos têtes. Mais laissons la parole de Dieu pénétrer dans nos cœurs pour nous changer et nous amener à obéir vraiment et à aimer comme le Seigneur lui-même nous a aimés. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Même la mission, même l'annonce de l'Évangile dans ce monde est dépendante de cette réalité. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc l'amour, c'est concret, c'est pratique, ça se manifeste. On pourrait dire, et je vais utiliser ici le concept développé par Gary Chapman. Quelqu'un a entendu parler de Gary Chapman qui a écrit ce best-seller? Qui a lu son livre ou ses livres, parce qu'il y en a eu plusieurs, plusieurs d'entre vous. C'est Les langages de l'amour. C'est un best-seller non seulement dans le monde chrétien, vous savez, ça a été diffusé bien au-delà. Et il s'appuie sur cinq, en disant qu'il y a différents langages, et nous avons chacun différents langages d'amour qui sont liés aux besoins émotionnels de chacun, en fait. Nos besoins émotionnels peuvent être différents suivant notre éducation, notre vécu. Et il y a cinq langages qu'il a isolés. Et sinon, vous savez, quand on ne parle pas le même langage, si je venais vers vous ce matin pour prêcher en anglais ou... Alors, en anglais, c'est possible, j'allais dire en allemand, mais ce serait plus compliqué. Vous ne pourriez peut-être pas comprendre, forcément, vous voyez, pas toujours. Donc, parler le même langage permet de se comprendre, d'accord? Et le problème, c'est que quand on communique à l'autre qu'on l'aime et que l'autre ne l'entend pas, c'est problématique, surtout dans un couple. Et c'est pour ça que Gary Chapman a écrit ce livre, pour aider les couples à s'entendre, à se comprendre dans les langages d'amour. Alors, dans les cinq langages d'amour, il y a dire tout simplement. Alors, dire, c'est pas simplement je t'aime, c'est aussi les mots valorisants, les mots qui encouragent l'autre. Entendre des mots qui font du bien. Le deuxième, c'est donner du temps. Prendre du temps avec l'autre. Voilà. Troisième, c'est donner des cadeaux, hein, faire des cadeaux à l'autre, hein, matériel, quelque chose de concret. Le quatrième, c'est le faire, c'est rendre service. C'est pour les hommes, pour peut-être que votre épouse entend ce langage, c'est faire le ménage ou faire la vaisselle ou faire les travaux ménagers dans la maison aussi bien que votre épouse. Peut-être qu'elle entend ce langage-là. Oui. Pas forcément, hein. Et puis le cinquième, c'est toucher, c'est une marque d'affection. Marque d'affection. Donc ça, ce sont les cinq langages au sein des couples, mais Gary Chapman va étendre ces langages à d'autres cadres. Et il affirme l'importance de découvrir le langage d'amour primaire, primitif de l'autre, pour mieux répondre à ses besoins émotionnels. Alors, est-ce qu'on peut, et c'est la question que je me suis posée, faire une analogie avec la relation que nous, êtres humains, nous avons avec Dieu et la relation que nous avons les uns avec les autres, l'Église. Et j'ai osé le transposer, ces langages d'amour, pour essayer de comprendre. Parce que ce qui est intéressant dans le concept de Gary Chapman, c'est qu'il montre que l'amour n'est jamais passif. L'amour, il dit... Il donne du temps, il donne, il fait, il va vers l'autre. L'amour n'est jamais passif. Si on aime, on va exprimer d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Alors la première réflexion que l'on peut avoir, c'est qu'en est-il de notre langage d'amour envers Dieu? Devenir chrétien, c'est entrer dans une relation avec Dieu. C'est découvrir son amour et l'aimer en retour, c'est ce que dit Jean, si tu veux le mettre le texte, 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc l'amour pour Dieu vient de ce qu'il nous a aimé le premier, et de cela découle l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ça va ? Alors, recevoir ce salut, cette vie nouvelle en Jésus, c'est accomplir toute la loi de Dieu, c'est-à-dire d'aimer. Rien de moins. C'est pour ça que la vie chrétienne ne peut pas être passive, inactive, statique plutôt. Je reste pas tel que je suis lors de ma découverte de l'Évangile. Je grandis, je progresse, je deviens de plus en plus mature à l'image de Jésus, on l'a vu tout à l'heure. Et je deviens de plus en plus comme lui, dans cette relation que j'ai avec lui. Et parce que aimer, c'est agir, alors forcément, si j'aime Dieu, je vais agir, je vais changer de comportement. Je vais manifester mon amour pour Dieu dans ma vie entière. Mon amour va s'exprimer. Et ça doit se traduire, bien sûr, dans ma relation avec Dieu, dans notre relation en tant qu'Église envers Dieu. Comprenez bien, hein, Dieu n'a pas de besoin, il n'a besoin de rien. Okay ? C'est nous qui avons besoin d'exprimer notre amour pour Dieu. Dire les mots valorisants, c'est notre adoration, notre louange. Nous exprimons à Dieu qui il est. Nous exprimons à Dieu ce qu'il a accompli. C'est notre vie de prière, mais c'est aussi lorsque nous nous assemblons, comme on l'a fait tout à l'heure, à travers le culte que nous rendons à Dieu, nous exprimons, nous disons à Dieu. Parce que Dieu a dit de moi que je suis son enfant. Parce qu'il m'a aimé le premier. Sinon, il n'y aurait pas de louange. Hein. Donner du temps, prendre du temps pour Dieu, est-ce que c'est une priorité dans nos vies, frères et sœurs ? Parce que Dieu est toujours là, lui. Alors oui, je peux prendre quelques instants dans ma journée, dans mon quotidien, pour passer du temps avec sa parole, avec lui dans la prière. Parce que lui sera toujours là pour moi en toutes circonstances. Il ne faut pas attendre dans circonstances difficiles d'être obligé de dire « Au secours, Seigneur !» Non, prendre du temps. Donner, c'est évident, la générosité chrétienne se manifeste pour le Seigneur et son œuvre parce que Dieu est généreux pour moi. Faire le service. Je mets en œuvre mes dons parce que lui me les a donnés, ces dons, pour le servir. Et il me donne la force de le faire. Et puis, toucher, c'est cette expérience que nous faisons. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans notre vie. L'expérience de l'action de Dieu, de l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu, frères et sœurs, s'exprime. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, forcément ça se manifeste et ça se dit, ça agit. Et ton prochain comme toi-même. Le langage de l'amour dans l'Église maintenant. Et Chapman souligne une chose, c'est la diversité qui existe entre les uns et les autres. Chacun a un langage particulier, individuellement, c'est lié à notre culture, à notre éducation, à plein de choses. Mais il y a aussi les cultures particulières qui ont des manières d'exprimer les choses différentes. Vous voyez, en Anjou, pour ceux qui viennent d'ailleurs, vous êtes peut-être aperçus que les choses ne sont pas forcément... D'accord ? Si vous venez du sud de la France, ou plus encore du sud d'Afrique, vous apercevez que les Angevins, ils ne sont pas très expressifs, quoi. Donc c'est une culture, vous voyez, et en plus on a des personnalités différentes. Il y a des gens qui sont plus extensifs, expressifs, et d'autres qui le sont moins. Et il y a des types de cultures. Une type de culture que j'aimerais souligner ce matin, c'est la différence entre les modernes et les postmodernes. Vous avez entendu ces mots ? Les modernes et les postmodernes. Alors les modernes, c'est qui ? C'est les baby-boomers, ouais ? Et ça vous dit quelque chose ? Peut-être en partie la génération qui a suivi, c'est ce qu'on appelle, dont je suis, c'est la génération X. Et puis la culture de type, mais la génération X a fait un peu une transition entre les deux. et la culture de type post-moderne. Génération Y, Z, Millennium, enfin voilà. Les plus jeunes, on va dire. Donc, deux types de culture. La manière d'exprimer l'amour pour Dieu va être différente. Mais l'amour est là. L'obéissance au grand commandement va s'exprimer différemment dans les relations dans l'Église. Et le risque, c'est de ne pas entendre le langage des autres dans l'Église. Et le risque, je prends cet exemple de moderne, post-moderne, mais vous voyez, d'autres cultures et d'autres choses peuvent intervenir, hein. Comme dans un couple, vous voyez, le risque, c'est de ne pas comprendre le langage de l'autre et de ne pas l'entendre. Et du coup, de ne pas apprécier et vivre cette réalité de l'amour les uns pour les autres. Et d'être dans l'attente de quelque chose qui ne correspond pas à leur mode d'expression de l'amour pour Dieu. Vous voyez. D'où l'importance d'apprendre les langages. Et ça demande un effort. Et c'est ce que Chapman souligne, c'est un effort que nous devons faire. Ça implique cet effort, d'abord, le premier effort, c'est de prendre du recul par rapport à notre propre langage, pour écouter les autres dans leur langage. Sinon, on ne les comprend pas et on les juge selon nos critères. Et on, au lieu d'aimer, on se fait juge de la vie chrétienne, de la vie spirituelle des autres. Vous voyez le problème ? Alors par exemple, je reprends les cinq langages, le dire, dans l'adoration par exemple, la louange, la prière, on peut être plus ou moins expressif. Je l'ai dit pour les angevins, moi je suis plutôt quelqu'un de pas expressif. J'aime bien la chanson de Francis Cabrel, vous voyez, je suis quelqu'un de l'intérieur. C'est exactement ça. Mais à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses, vous voyez. Donner du temps. Prendre du temps pour Dieu peut s'exprimer de différentes manières, et ce n'est pas toujours visible à notre regard. Au contraire, finalement, puisque Jésus a donné ce conseil, quand tu veux passer du temps avec ton Père, entre dans ta chambre, ferme la porte dans le lieu secret. Bon. Donner la libéralité, la générosité, là où encore, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche, enfin, au contraire, je ne sais plus. Et c'est pas toujours que par l'argent, d'ailleurs, la générosité. Le faire, le service, je mets mes dons au service, et on met au service de Dieu et au service les uns des autres, forcément. Et on sait qu'on a tous des dons différents. On sait qu'on est tous différents dans ce que nous faisons et donnons au Seigneur. Mais est-ce qu'on accepte toujours ces différences ? Est-ce qu'on les accueille vraiment ? Et puis aller vers l'autre, faire la démarche d'aller vers l'autre, pour vivre cette communion, cette relation que nous avons les uns avec les autres. Mais là encore, on n'a pas tous les mêmes sensibilités. On n'a pas tous les mêmes sensibilités dans le niveau de temps, des relations, vous voyez. Hein. Il y en a qui sont ouverts, expressifs, ils ont toujours besoin de manger ensemble et de faire plein de choses ensemble. Puis il y en a qui sont plus discrets, qui ont besoin de temps pour eux-mêmes. Et voilà. Mais l'amour s'exprime différemment. Et nous devons être à l'écoute d'une expression ou une autre. Et dans le Nouveau Testament, essayons de rembobiner 2000 ans en arrière. C'est pas facile, hein, je sais. Mais l'Église a vécu des extrêmes dans l'Église du Nouveau Testament. Est-ce que vous avez essayé de réfléchir et d'imaginer des Juifs manger, célébrer Dieu avec des gens qui viennent de cultures et de religions païennes et qui se sont convertis à Jésus-Christ ? C'est énorme ! Dans la même Église ! Dans la même Église, d'avoir des esclaves et des maîtres. On a du mal à imaginer ce que ça pouvait être. Il y avait des problèmes, hein, puisque les Épîtres nous donnent quelques témoignages. Et c'est pour ça qu'on trouve ces exhortations. Et Paul dit de se faire tout à tous. C'est-à-dire, il ajoute, en Éphésiens 4, de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est un effort. Et nous sommes appelés à écouter ces exhortations. Dans une même église où il y a des cultures, des générations, des manières de vivre les choses qui peuvent être différentes. Et qu'il n'y a pas de jugement de valeur particulier. C'est une différence. Les modernes doivent arrêter, peut-être, de penser que leur critère, leur expression de l'amour pour Dieu ou de service de Dieu, leur manière de vivre l'Église est nécessairement la référence absolue pour apprendre à se faire tout à tous. Par exemple, comprendre les plus jeunes et à les respecter dans ce qu'ils vivent et dans ce qu'ils font. Et les postmodernes, il y en a pour vous aussi, doivent faire l'effort d'écouter les autres générations, les autres cultures, et de ne pas c'est le problème du postmodernisme, c'est de se replier sur ce que je ressens, sur ce que je vis, en se disant que chacun fait comme il veut. On n'a pas besoin de s'occuper des autres finalement. On en arrive là quand même avec le postmodernisme. C'est l'hyper-individualisme. Donc de s'ouvrir, au contraire. Et tous, nous devons apprendre à nous dire les uns aux autres des choses. Et ce que nous devons apprendre à nous dire les uns aux autres, ce sont des paroles ou des mots valorisants, encourageants, de dire bravo, de dire merci. Vous dites merci ? On l'apprend au tout petit, mais de nous dire les uns aux autres merci. D'être encourageant, de dire « Allez, vas-y, je suis avec toi ou je suis avec vous. Je comprends rien du tout à ce que tu fais, mais vas-y. » Donner du temps à l'autre. Prendre du temps avec l'autre. Mais oui, la communion fraternelle, c'est pas venir le dimanche matin, s'asseoir et repartir. Ça doit s'exprimer à un moment donné dans ma relation que j'ai avec des frères et des sœurs. Dans cette communion, c'est pas de la théorie, la communion fraternelle, c'est du temps. On apprend les uns des autres. Vous voyez ? Donner la libéralité, ce que la Bible appelle la libéralité, la générosité. C'est pas simplement envers Dieu, l'œuvre de Dieu dans mon offrande, mais c'est la générosité mutuelle. Faire des gâteaux pour les autres. Vous faites des gâteaux de temps en temps et partagez. Je sais qu'il y a des agapes, et que la générosité existe dans cette église, mais c'est concret, vous voyez, c'est pratique, c'est un langage qui fait du bien à ceux qui ont besoin de l'entendre. Et ça va dans les deux sens, c'est pas je viens et je veux qu'on me donne. Non, c'est apprendre à donner et à recevoir. Il y en a qui ont plus de mal à apprendre à recevoir, mais ça c'est autre chose. Le faire, le service mutuel. On n'est pas dans le service dans l'église pour se faire plaisir, vous êtes d'accord avec ça ? Mais on tient toujours compte des besoins des autres, de l'Église, des attentes. On est là pour les autres, pas pour nous. Et puis aller se bouger. Même si je suis pas toujours à l'aise avec cette manière de faire, cette manière de vivre les choses, oh, il va y avoir une réunion, oh là là, ça va pas me correspondre, mais je viens parce que je veux soutenir ce qui se passe. Vous voyez ? Je veux apprendre à me faire tout à tous. L'amour, vous voyez, c'est pas théorique, c'est pas abstrait, c'est un effort que nous devons faire sur nous-mêmes. Dieu est amour. Et Dieu s'est bougé de manière cosmique parce qu'il est descendu du ciel, il est venu sur la terre et il a donné sa vie à la croix. Il est descendu jusqu'à la mort même de la croix. Et il a été élevé au-dessus de tout. Ça, c'est le Dieu que nous célébrons, Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça, c'est l'amour que nous sommes appelés à manifester les uns les autres. C'est l'amour qui s'abaisse pour servir. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen.